Et donc, nous allons passer à la deuxième communication de cet après-midi, qui est due à Samantha Besson. Samantha Besson, elle aussi est chez elle au Collège de France depuis 2018 ou 2019, l'entrée, hein, voilà. Donc elle nous a rejoint depuis l'Université de Fribourg. Impossible de résumer ses travaux donc, qui portent sur le droit international. Mais je dois dire que si vous regardez un peu son CV, ce qui est très impressionnant, c'est la diversité et le statut des endroits où elle a enseigné partout dans le monde, y compris la Harvard School of Law, etc. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et donc elle va nous parler aujourd'hui du droit international des civilisations ou comment instituer leur concertation. Ma chère Samantha, c'est à toi.
Voilà, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, merci beaucoup aux organisateurs d'avoir organisé cette belle conférence. Merci aussi de me recevoir ici en tant que Suissesse, alors qu'on a beaucoup entendu ce matin que la civilisation ne montait peut-être pas les montagnes et n'atteignait peut-être pas les sommets les plus élevés des lieux où vivent les gens. Donc je me sens particulièrement honorée d'être reçue en tant que Suissesse aujourd'hui. Alors, à mains égards, l'histoire du droit international se confond avec celle du concept de civilisation. La civilisation a en effet marqué l'évolution de ce droit, et ce, dès les prémices de la notion de droit des gens dans la pensée européenne des XVIe et XVIIe siècles, et les implications concrètes de l'idée de civilisation universelle sur les libertés de commercer et d'acquérir des puissances européennes dans les siècles qui ont suivi. En fait, c'est surtout entre 1850 et 1930 que se situe l'âge d'or de ce qu'on désignait de mission sacrée de civilisation du droit international, une mission qui a fondé l'expansion du droit public européen, de l'Europe, puis de l'Occident, au reste du monde. Ce droit public européen et sa prétention à l'universalité ont aussi marqué l'histoire du concept de civilisation en retour. C'est en effet précisément entre les XVIIIe et XIXe siècles, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui et hier, que ce concept se cristallise dans l'histoire des idées occidentales, principalement d'ailleurs dans les langues des puissances européennes à l'origine de l'expansion du droit international et chez des penseurs qui étaient aussi souvent ceux de ce droit. En termes de contenu, le droit joue d'ailleurs un rôle non négligeable dans le concept de civilisation, puisque divers aspects de l'organisation juridique et institutionnelle européenne figurent au cœur du concept classique de civilisation, jusqu'à faire ensuite de cette civilisation, du droit, un standard juridique en soi. Dès 1945, toutefois, on observe une éclipse de la référence à la civilisation en droit international. C'est le moment, en effet, où les autres civilisations, pour reprendre ce qu'on a entendu ce matin sur l'Ouest et le reste, donc que les autres civilisations, d'abord différenciées par la colonisation, puis protégées par les protectorats et mandats par le droit international de la première partie du XXe siècle, sont enfin devenues des égales, d'abord de la civilisation occidentale, puis entre elles. Et ce, en principe du moins, tant en droit international que devant le droit international, en conséquence de la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples, et de la souveraineté égale de tous les États, et non plus seulement des États occidentaux. Le standard de civilisation n'en a pour autant pas entièrement disparu du droit international moderne, devenu le droit international contemporain. Il a simplement été remplacé par divers standards juridiques, plus spécifiques, constitutifs de ce que le droit international désigne d'ailleurs aujourd'hui encore comme un monde civilisé. Vous trouvez d'ailleurs dans des textes qui sont aujourd'hui encore valables en droit international, comme par exemple le préambule de la Convention contre le génocide de 1948, le terme « monde civilisé », de même pour la Convention européenne des droits de l'homme, ou tout récemment encore une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur les organes internationaux en matière de droits de l'homme. Donc, comme je le disais, le standard de civilisation n'a pas pour autant entièrement disparu du droit international moderne. Il a simplement été remplacé, spécifié par des concepts un petit peu plus spécifiques, tous constitutifs de cette notion de monde civilisé dont on ne se gêne pas encore de revendiquer. C'est notamment le cas de normes et standards comme développement, on a entendu ça d'Henri Laurence hier, mais aussi droits de l'homme, état de droit, démocratie, voire humanité, et cela résonne très bien avec l'exposé de Dario Mantovani. Ce qui caractérise ce deuxième temps de la civilisation en droit international, dès lors, ce n'est plus une notion de la civilisation occidentale au singulier qui aurait pour mission de civiliser les autres civilisations au pluriel par le biais de sa prétention à l'universalité doublée d'un projet impérialiste et l'internationalisation de ce que l'on peut appeler son droit de civilisation. Ce qui le distingue de cette première époque, c'est une notion de civilisation au singulier devenue universelle en tant que droit international et qui se présente comme la civilisation humaniste ou juridique commune à toutes les civilisations au pluriel, dont la civilisation occidentale. L'opposition entre civilisation au singulier et civilisation au pluriel, dont Henri Laurence nous a entretenus, n'est donc plus aujourd'hui une opposition inégalitaire entre un processus de civilisation par le droit et un état civilisé des civilisations. Au contraire, elle désigne désormais le respect égal de ce que l'on peut désigner de droit civilisation, un droit commun, transcivilisationnel et garant de l'égalité entre civilisations. Depuis le tournant du millénaire, cependant, comme dans d'autres contextes d'ailleurs, les civilisations semblent avoir rattrapé le droit international. Et Han Cheng nous en a parlé ce matin au sujet de la Chine. Ouvrant ainsi une troisième ère de la civilisation en droit international, celle du droit international des civilisations. Ce que l'on observe en effet, c'est que certaines de ces civilisations, ou du moins leurs champions, renouent avec le concept essentialisant de civilisation du XIXe siècle. Dans ce contexte, c'est donc sans surprise qu'on a vu le spectre de nouveaux conflits de civilisation être agité et la crispation civilisationnelle de se poser. La réaction du droit international ne s'est pas fait attendre, à l'instar du dialogue des civilisations initié par l'UNESCO dès 2001. Deux fondamentalismes guettent toutefois ce type d'entreprise en droit international. Un universalisme uniformisant et la négation des civilisations qu'il induit, d'une part, et un relativisme culturel et son essentialisation des civilisations qui rend leur conflit inéluctable, d'autre part. Et je pense que c'est cette tension qui anime les organisateurs de cette conférence et qui nous amène aujourd'hui encore à en parler. Sensible à ce péril et animé par une quête plus subtile de l'unité dans la diversité, quelques internationalistes, dont je suis, ont cherché à jeter les bases d'un nouveau droit commun ou transcivilisationnel. Pour l'heure toutefois, ces entreprises se sont concentrées sur le contenu de ce droit international commun. La légitimité universelle d'un droit international transcivilisationnel de ce type réside pourtant tout autant, si ce n'est plus, dans les procédures intercivilisationnelles d'adoption de ce droit, au risque sinon de manière éternelle de répéter la critique impérialiste et de ne pouvoir répondre à la critique de ce droit prétendument universel ou du moins universalisable. C'est à cette dimension procédurale et institutionnelle de la légitimité du droit international et à ce que l'on pourrait nommer le nouveau concert des civilisations que cette conférence est consacrée. Mon argument, en trois temps, sera que la clé de la tension en apparence insoluble entre l'universel et le particulier en droit international se trouve dans les rapports mutuels très particuliers qui unissent le droit à la civilisation en Occident. Et c'est ce que Dario Mantovani a très bien présenté tout à l'heure. Ce n'est qu'en comprenant ces rapports spécifiques, dans un deuxième temps, qu'on peut saisir à la fois la force historique du droit public européen, devenu droit international, et sa faiblesse face à certaines des revendications civilisationnelles contraires. Ce sera mon deuxième point. Les saisir mènera ensuite, et ce sera mon troisième point, à révéler les ressources dont dispose déjà le droit international contemporain pour se réformer et notamment se réuniversaliser afin d'éviter les écueils des nouveaux impérialismes qui sont désormais les siens, comme ceux des autres. Il s'agira notamment de mettre en place de nouvelles procédures et institutions internationales, notamment régionales, qui soient plus inclusives des différentes civilisations et à même d'assurer la représentation égalitaire des individus et des peuples dans la production de ce qui devrait pouvoir enfin devenir un véritable droit international des civilisations. Vaste programme. Je commence donc avec mon premier point, droit civil et civilisation juridique, généalogie du standard de civilisation en droit international. La clé de la tension entre l'universel et le particulier en droit international se trouve dans le rapport très fort qui unit la civilisation au droit occidental. Un droit qui, je vous le rappelle, a été universalisé de manière à devenir le droit international, un droit aujourd'hui réputé universel. Ce n'est évidemment pas ici le lieu d'entrer dans de longues considérations sur la généalogie du droit en Occident. Par chance, Dario Mantovani a parlé avant moi et a pu le faire en partie pour moi. En bref, ce qui caractérise ce droit depuis ses origines en droit romain, c'est l'idée d'un droit civil, d'un droit qui civilise. Le droit civil, c'est un droit à même de garantir, en tant que tiers garant, des relations sociales pacifiées, et qui prend ainsi la place d'autres moyens de pacification ou de contrôle du pouvoir. La civilité du droit occidental, et à l'inverse la légalité de la civilisation occidentale, distingue aujourd'hui encore la tradition juridique occidentale et la civilisation du droit en Occident. Non seulement la distingue-t-elle d'autres traditions juridiques où la civilisation est moins présente, voire absente, elle distingue aussi la civilisation occidentale d'autres civilisations où le droit est moins central, parce qu'elle recourt à d'autres moyens de contrôle du pouvoir, d'autre part. La relation mutuelle entre droit et civilisation que je viens d'esquisser s'est construite en deux temps, devenue depuis deux directions de leur relation. Après avoir été tout d'abord une dimension centrale du contenu de la civilisation occidentale, le droit occidental, puis international, a ensuite transformé la civilisation en un standard juridique à part entière, et est dès lors devenue, par cette opération, la fabrique de ce standard. Premier temps, une civilisation au contenu juridique. Le droit et les institutions ont constitué, je l'ai dit, dès les origines, une dimension importante de la civilisation occidentale. Dario Mantovani a mentionné le droit civil à plusieurs reprises, qui régit les relations entre personnes privées, mais il faut aussi mentionner le droit administratif et public plus généralement. L'une des caractéristiques de la civilisation occidentale dont nous avons parlé à plusieurs reprises, notamment hier dans l'exposé de Céline Spector, est l'organisation ou l'institution du groupe par le droit, d'abord le droit d'urbanisation de la cité, puis principalement le droit d'organisation de l'État, et évidemment l'État lui-même et ses organes, comme la police dont nous venons de parler, ou le pouvoir judiciaire. Donc ceci, en général, est assez connu. En revanche, le deuxième temps, lui, passe parfois inaperçu. En effet, deuxièmement et réciproquement, la civilisation elle-même est progressivement devenue une norme centrale du droit occidental. Dès le XIXe siècle, on parle à cet égard de standard de civilisation en droit international. Le contenu de ce standard reprend les composantes juridiques et institutionnelles de la civilisation européenne puis occidentale évoquées précédemment, et ces composantes sont alors devenues, par ce biais, doublement normatives ou prescriptives, dans leur contenu d'abord, puis ensuite dans leur véhicule, un standard juridique. Ainsi, les standards d'organisation institutionnelle issus à l'origine du droit public national de l'État européen constituent aujourd'hui, par décalque, pour citer le juge Forster dans l'affaire du Sahara occidental, le contenu minimal de ce qu'on appelle le droit international de l'État. Et l'émergence de ce standard juridique de civilisation a eu au moins deux conséquences pour la civilisation occidentale. Elle induit d'une part une certaine réflexivité, voire une performativité de l'énoncé de civilisation, dont on a en fait beaucoup parlé ici, sans en parler ouvertement, qui correspond d'ailleurs à la dimension réformatrice du concept de civilisation dont Henri Laurence nous a parlé. Être civilisé implique en effet de se conformer à certaines prescriptions juridiques constitutives de la civilisation, et qui prescrivent dès lors de se civiliser ou de se faire civiliser. Il faut aussi, d'autre part, souligner le caractère dogmatique du standard juridique de civilisation, dont le contenu est précisément le droit dont il tire son autorité. En fait, la dimension dogmatique du standard de civilisation en droit occidental correspond à la nature dogmatique de ce droit en général. En effet, le propre du droit en Occident est, depuis la séparation du droit européen, de la religion chrétienne, de constituer sa propre vérité, son propre fondement, et de ne plus être au service d'un système dogmatique extérieur, notamment religieux. Le droit et ses institutions, dont l'État, sont depuis lors le seul tiers garant de relations civiles et donc de la civilisation. Mon deuxième point maintenant, du droit de civilisation au droit civilisation, force et faiblesse du droit international. Une fois que l'on a compris ce rapport très spécifique entre droit et civilisation en Occident, on peut saisir comment ce droit a pu devenir un droit de civilisation dès le XIXe siècle, puis se consolider en un droit civilisation dès la deuxième moitié du XXe. En fait, ce rapport permet d'appréhender non seulement la force historique du droit public européen devenu droit international, à côté, bien sûr, de la force physique, il n'est pas mon propos de nier cette force-là, mais souvent on ignore cette force symbolique du droit public européen devenu droit international, mais aussi sa faiblesse, ensuite, face à certaines des revendications civilisationnelles contraires. Donc j'aurai deux points, la force, tout d'abord du droit de civilisation européen du XIXe, et ensuite la faiblesse du droit civilisation international, posée en 1945. La force très singulière du droit de civilisation européen tient tant à l'alliage droit-civilisation que je viens de vous présenter, qu'à son contenu dogmatique égalitaire. Et c'est très bien que Dario Mantovani ait fini son exposé cet après-midi en nous rappelant l'importance de l'égalité. Et Han Cheng l'avait déjà fait indirectement ce matin. Premièrement, le succès de ce droit de civilisation tient au rapport entre droit et civilisation caractéristique de l'Occident. Comme on le sait bien, d'autres civilisations nourrissaient des ambitions universelles, voire impérialistes, au XIXe puis au début du XXe. Aucune d'entre elles, toutefois, ne disposait d'un levier juridique comparable au droit de civilisation occidental. Un levier, je l'ai dit, performatif et dogmatique de surcroît, situé au cœur de son projet civilisationnel. Il suffit de comparer ce dernier à celui de la Chine de l'époque pour réaliser l'absence de dimension juridique comparable de celui-là. Même parmi celles des civilisations concurrentes qui se caractérisaient par une dimension juridique importante, comme le droit international islamique ou Siyar, aucune ne reposait sur un système dogmatique non religieux tel que celui du droit public européen. Deuxièmement, le succès du droit civilisation européen peut aussi s'expliquer par le principe qui, je l'ai dit, se trouve à son fondement, l'égalité interétatique d'abord, puis interindividuelle, qui en constitue le dogme. Le droit de civilisation européen a certes été développé à l'origine pour garantir au droit international l'égalité de souveraineté et de droit avant tout des États. Au sein du Conseil européen, il s'agissait en outre, bien sûr, uniquement de l'égalité des États européens par opposition aux barbares à civiliser. Mais cette garantie de l'égalité entre États est rapidement devenue la promesse d'un véritable droit international, et donc d'un droit constitutif d'une société internationale, en tout cas dans sa promesse, égalitaire et pluraliste. La perspective d'un tel droit était plus attrayante que celle d'un droit impérial, centralisé et unitaire, voire d'un pouvoir impérial sans limite, et en particulier sans limite juridique aucune. C'est d'ailleurs aussi dans ce contenu égalitaire du droit public européen qu'a résidé ensuite la clé de la mue du droit de civilisation des Occidentaux en droit civilisation, une fois ce droit universalisé en 1945. En effet, devenu droit international, ce droit civilisation ne pouvait qu'être le garant d'un humanisme juridique transcivilisationnel sur le modèle de l'humanisme juridique transnational qu'il avait progressivement institué d'abord en Europe. Avec l'universalisation du droit public européen à tous les peuples du monde institués en états égaux, c'est donc en effet aussi le dogme de l'égalité des individus, sous la forme des garanties des droits de l'homme dont nous a parlé Han Cheng ce matin, je la remercie d'avoir mentionné pour la première fois ce terme dans ce colloque, et donc c'est ce dogme de l'égalité des individus qui lui-même était alors universalisé. Donc voilà pour la force. Maintenant la faiblesse du droit civilisation international, une fois universalisé. L'alliage droit-civilisation explique aussi, à mon avis, certaines des faiblesses du droit-civilisation moderne. Certaines de ces faiblesses sont inhérentes au droit occidental en général, et on les voit très bien à l'œuvre dans les droits nationaux des États européens, notamment. Mais d'autres de ces faiblesses relèvent du droit international plus particulièrement, et plus particulièrement du fait qu'il est soumis à ce qu'on a appelé parfois la décolonisation du droit international, c'est-à-dire une vaste entreprise de décivilisation de son contenu. Donc je commence par le premier type de faiblesse, qui tiennent au caractère dogmatique de l'alliage droit-civilisation. Comme Alain Supiot l'a très bien expliqué pour le droit national, la nature dogmatique du droit occidental le rend vulnérable à l'emprise d'autres dogmes allégués, développés dès le XIXe siècle sur son modèle. C'est le cas de ce qu'on appelle les lois de la science ou les lois de l'économie. Et l'émergence de ces autres lois confirme la difficulté qu'il y a, dans un système dogmatique purement juridique et détaché du religieux, à saisir et à justifier l'importance du tiers garant étatique et donc à justifier l'autorité spécifique du droit par rapport à l'autorité alléguée par ces nouvelles lois. C'est ce qui explique qu'en droit international contemporain, l'humanisme juridique et les divers standards juridiques de civilisation aient progressivement été remplacés, ou du moins concurrencés, voire pénétrés, par d'autres types de standards qui portent le même nom et jouent de la même apparence dogmatique. Et c'est le cas dans un domaine qui m'occupe et qui m'anime, le droit international des droits de l'homme, où on observe à l'œuvre ces autres standards qui ne sont pas des standards juridiques, mais qui influencent le contenu, l'interprétation des droits de l'homme. Et c'est vrai malheureusement aussi en droit international des institutions. En lieu et place d'éléments institutionnels, on a vu se développer une technoscience de l'État et des organisations internationales. Au lieu d'exiger, comme durant la première partie du XXe, que ces États, puis leurs organisations, soient dotés d'un gouvernement effectif, ou encore respectent la souveraineté de la séparation des pouvoirs, ces mêmes États et organisations se voient aujourd'hui imposer, au titre de la conditionnalité économique, diverses exigences de décentralisation, de privatisation, mais surtout différents indicateurs de développement durable qui n'ont plus rien de juridique. Les historiens critiques du droit international, et vous l'aurez compris, je ne suis pas historienne, donc je me fonde sur leurs travaux, les historiens critiques du droit international ont bien documenté comment le capitalisme puis le développement économique ont remplacé le droit public européen comme mission sacrée de civilisation du droit international au XXe siècle. Mais l'œil désormais averti de cet après-midi décèlera aussi toutefois l'érosion du standard de civilisation lui-même par ce processus de déjuridisation. Ce qui est à l'œuvre n'est donc pas seulement la poursuite intentionnelle et sans scrupule du droit de civilisation du XIXe siècle sous le couvert d'un droit du capital ou d'un droit du développement. Non, ce qui est à l'œuvre aussi, et c'est plus grave, c'est l'effondrement du ressort juridique interne du droit civilisation. Deuxièmement, le droit civilisation international est en fait plus affecté et plus durement affaibli, à mon avis, dans le rapport spécifique, dans l'alliage spécifique entre droit et civilisation, que d'autres régimes du droit occidental, parce qu'il se veut international. Et ce qui l'affaiblit davantage encore que le droit national, en Occident, ou en Europe du moins, tient aussi au travail de décolonisation, je l'ai dit, du droit international. Ce travail qui est à l'œuvre depuis de nombreuses années, voire dizaines d'années désormais, est un travail de dissociation intentionnelle du droit, de la civilisation, qui est entrepris par de nombreux États non européens, et notamment sud-américains, puis africains, durant la deuxième partie du XXe, qui ont réclamé et peu à peu obtenu que le droit international soit expurgé de sa dimension civilisationnelle. Mais la conséquence de cette décivilisation, aussi louable soit-elle, aura été de précipiter encore davantage la réduction du droit international à un pur fait social, voire à un fait scientifique, au motif qu'un fait social ou un fait scientifique est forcément plus neutre du point de vue de la civilisation. En fait, l'alliage entre droit et civilisation est d'autant plus vulnérable à ces attaques décivilisatrices que sa dimension dogmatique est devenue incompréhensible pour les juristes internationalistes. Le caractère désormais illisible du dogme juridique occidental rend en effet intolérant à tous les autres systèmes dogmatiques, notamment religieux. L'humanisme juridique transcivilisationnel que le droit civilisation international garantissait depuis 1945, ainsi mué parfois malheureusement en fondamentalisme civilisationnel, ne fait depuis que nourrir celui des autres en retour. Et comment ne pas penser, et ce qui a été dit hier, d'ailleurs par Henri Laurence, dans sa conclusion m'y a fait penser aussi, comment ne pas penser à ce que Simone Veil appelait le déracinement par les déracinés, ce cycle fatal et tragique de décivilisation. Ceci m'amène à mon troisième point, qui est un point d'ouverture, un point de construction vers un droit international des civilisations. Une telle prise de conscience des ressorts juridiques de son humanisme civilisationnel peut, et ce sera ma troisième thèse, nous mener à mieux identifier puis à corriger certains des travers fondamentalistes de la pratique actuelle du droit international pour le reciviliser d'une part, mais aussi pour en tirer les arguments internes nécessaires pour en proposer des réformes institutionnelles à même de lui permettre de mieux concerter les civilisations d'autre part. Pour citer Gandhi, une recivilisation doit avoir lieu après la décivilisation. Pourquoi ne pas envisager une telle recivilisation après la décivilisation du droit civilisation international ? Pour Gandhi, une telle recivilisation passe par une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise de soi. Une recivilisation du droit international, si elle devait avoir lieu, et je pense qu'elle devrait avoir lieu, devrait donc impliquer une meilleure compréhension de soi et sa réuniversalisation. Plutôt que de nier les origines occidentales, mais aussi impérialistes du droit international, mieux vaut les révéler, comme j'ai essayé de le faire, puis éviter ainsi l'éternel retour de la critique postcoloniale. Il s'agirait ensuite de faire d'une nécessité, en l'occurrence accepter le droit public européen devenu droit international par la force, de faire de cette nécessité une vertu, en l'occurrence le mettre au service de toutes les civilisations par la concertation, en achevant l'œuvre d'universalisation de l'égalité des individus et des peuples qu'il garantit. Ce n'est qu'au prix de ce travail de réuniversalisation, complète et pacifique cette fois-ci, que la recivilisation et du fait de leur relation, la rejuridicisation du droit international pourra avoir lieu. Rappelons-nous que le droit international, malgré qu'il ait posé en dogme l'égalité des droits des individus et des peuples en 1945, n'a jamais pu l'assurer pleinement. Et ce, en raison des privilèges importants que se sont arrogés les puissances occidentales dans l'articulation de l'ordre institutionnel international lui-même, et notamment de l'ordre onusien, dès 1945. Et ces privilèges d'origine des puissances occidentales ont contribué à rendre cet ordre très vulnérable au jeu des nouvelles puissances dont nous parlait Han Cheng, et ce, sans qu'aucun correctif égalitaire interne à cet ordre laissé intentionnellement inachevé ne puisse plus être trouvé. C'est pour cela qu'il faut, je pense, instituer la concertation des civilisations en droit international. Cela implique de prendre toutes les civilisations au sérieux dans la production, l'interprétation et la mise en œuvre du droit international. Et cela doit passer par l'instauration de procédures de concertation, mais aussi, comme je l'expliquerai, de l'institutionnalisation internationale des régions. Procéduraliser la concertation des civilisations autour du droit international. Vaste programme, mais programme nécessaire si nous souhaitons sortir des deux fondamentalismes dont je vous ai parlé en introduction, c'est-à-dire le fondamentalisme d'un universalisme uniformisant, qui est très séducteur, et d'autre part, le fondamentalisme d'un relativisme culturel. Sensible à ce péril, je l'ai dit, quelques internationalistes cherchent aujourd'hui à jeter les bases d'un nouveau droit commun, qu'ils appellent un droit transcivilisationnel. Il s'agit pour eux d'identifier ou de construire des normes juridiques minimales communes au sein de chaque civilisation, puis entre différentes civilisations. Pour l'heure toutefois, ces entreprises, je l'ai dit, se sont concentrées sur le contenu du droit commun. Et il est peu fait mention de sa dimension institutionnelle et procédurale, et donc politique. Et c'est d'autant plus regrettable, à mon avis, que si nous souhaitons repousser la critique néo-impérialiste de l'universalité du droit international, il est essentiel de nous atteler à la légitimité universelle d'un droit qui serait inter-civilisationnel dans sa procédure d'adoption. Dans un monde caractérisé par le pluralisme moral et social, l'universalité du droit international n'est pas, en tant que telle, et ne peut pas être garante de celle de sa justification morale en termes de contenu. Cette universalité est pourtant un fait de ce monde globalisé, Et surtout, elle pose en dogme et garantit quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises, y compris par moi, c'est-à-dire l'égalité des individus et des peuples. Il serait bon, dès lors, si ce dogme nous plaît, je pense qu'il devrait nous plaire, de dépasser la critique du droit international pour en assurer au moins la légitimité procédurale. Et se soucier de cette légitimité implique de se préoccuper de la représentation politique de tous les individus et peuples sujets de ce droit par les institutions impliquées dans la production de ce droit. Maintenant, l'une des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on souhaite assurer cette égalité politique des individus et des peuples tient à la nature de leurs représentants. Actuellement, les représentants principaux de ces individus et peuples sont les États. Et l'un des déficits démocratiques des États en tant que représentants internationaux des individus et peuples est qu'ils n'assurent pas une prise en compte égalitaire des communautés civilisationnelles plus larges qui rassemblent ces individus et peuples. En fait, on peut même parler d'une égalité épistémique dans la représentation par les États. En effet, les perspectives et conceptions civilisationnelles du droit international sont distribuées géographiquement de manière fondamentalement inégale dans le monde. Si vous utilisez les États pour représenter les individus et peuples, les États qui par excellence sont des institutions territorialisées, eh bien vous ne parvenez pas à représenter de manière égale les conceptions du droit qui sont mal diffusées dans le monde et qui se concentrent dans des régions en particulier. C'est pour cela que je propose un nouveau concert des civilisations, en écho contemporain, et cette fois-ci universel, voire démocratique, au concert des nations de 1815, qui n'était limité qu'aux États européens. Maintenant, deux remarques s'imposent à ce stade, auxquelles vous avez peut-être déjà pensé en voyant le titre. Il est important de préciser que la recherche d'une telle concertation n'implique de nier ni l'hybridité des civilisations contemporaines, ni les conflits intra-civilisationnels. Elle n'implique pas non plus d'épouser une idée d'uniformité. Au contraire, et c'est ça la beauté du terme concertation qu'avait révélé Jean-Noël Robert, c'est qu'elle se réalise tant dans la dispute que dans l'harmonie, comme la double étymologie du terme concerté le révèle. D'autre part, et ça c'est quelque chose d'important à souligner, concerter les civilisations implique davantage que l'instauration d'un dialogue entre civilisations, qui est quelque chose qu'on entend souvent. Les civilisations en tant que système dogmatique ne sont en effet pas des sujets de droit international. Et il ne s'agit certainement pas de les transformer en sujets de droit international. Il faut éviter de les personnaliser, comme on l'a fait au XVIIIe siècle pour les États. En revanche, il est souhaitable d'instituer la concertation entre les individus et peuples dont ce sont les civilisations. Et c'est précisément ce que je propose de faire dans mon dernier point, instituer un droit international des régions. Au fin d'instituer cette concertation entre les individus et les peuples dont ce sont les civilisations, pour corriger l'inégalité épistémique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui résulte de la représentation par les États, il convient d'envisager la création de nouvelles institutions internationales qui soient plus inclusives des différentes civilisations que les États et les organisations internationales dont ils sont membres. Maintenant, de manière fort intéressante, il existe au sein de l'ordre institutionnel international, et on n'a pas besoin de tout réinventer, on a entendu parler de réinventer la roue hier, je crois, et donc il ne s'agit pas ici de réinventer la roue, puisqu'il existe déjà au sein de l'ordre institutionnel international un type d'institution encore mal défini parce qu'elle n'est pas une organisation infra ou interétatique, et elle n'a donc pas de rapport clair avec les États. Et son importance en droit international ne cesse de croître depuis le tournant du millénaire, à l'instar d'ailleurs de celle des civilisations. Et cette institution, c'est la région, et les différents avatars juridiques et institutionnels qu'elle prend en droit international. En fait, elle est vraiment multiforme dans ses formes institutionnelles. La proposition que je fais ici est de révéler la dimension civilisationnelle des régions et d'œuvrer à leur organisation afin d'instituer une meilleure concertation des civilisations en droit international. Représenter les individus et les peuples par la région, c'est en effet compléter la représentation politique qu'offre déjà l'ordre institutionnel international contemporain, une représentation politique qui, toutefois, est limitée à une représentation d'une part territoriale, par les États, et d'autre part fonctionnelle, par les organisations internationales. Et donc la région va pouvoir s'insérer de manière très utile dans ce système de représentation institutionnelle en assurant une représentation qui n'est ni territoriale et locale, ni fonctionnel et universel. Le premier argument qu'on peut avancer en faveur de cette proposition est historique. Les régions sont la forme institutionnelle, si on y regarde de plus près, comprises les civilisations face au développement du droit international. On le remarque tout de suite si on examine les origines de l'organisation institutionnelle de la région Europe et son rapport à la civilisation européenne et à son expansion en dehors de l'Europe dès le XIXe siècle. Et donc, même si l'histoire des régions est plus ancienne que celle du droit public européen, et il ne s'agit pas d'être eurocentrique ici, la différenciation interrégionale n'a par définition pu se développer qu'en réaction aux velléités impériales des puissances européennes et à l'internationalisation du droit public européen. S'en est donc suivi premièrement la consolidation de régions, comme la région latino-américaine, puis africaine, et enfin arabe au début du XXe, et ce en expression d'une civilisation propre et d'une prétention à pouvoir développer un droit international régional autonome, ou du moins à exercer la même influence sur le droit international universel que celle du droit public européen. Et on retrouve ces traces de la région dans le système de la Société des Nations dès 1919. Deuxièmement, au moment de la consolidation du droit civilisation international en 1945, l'établissement de l'ordre institutionnel universel et transcivilisationnel dont j'ai parlé n'a donné qu'un très mauvais accueil, très tiède, à l'idée institutionnelle de la région. Et c'est tout à fait compréhensible puisque s'installe à l'époque un droit international soucieux d'universalité et donc d'uniformité. C'est particulièrement évident dans le système des Nations Unies où la région est à peine mentionnée. Et malgré cela, les régions se sont saisies de l'ordre institutionnel international après 1945 pour se réimposer dans l'interprétation du droit international, et notamment de la Charte des Nations Unies, puisqu'elles sont imposées l'ordre régional, notamment dans toutes les élections au sein des Nations Unies et des organisations internationales. Donc ce qu'on voit bien dans ces deux premières périodes du régionalisme en droit international, ce sont les deux grandes époques qu'ont été le droit de civilisation dès le XIXe siècle et le droit civilisation dès 1945. Donc on reconnaît exactement les mêmes époques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a actuellement un renouveau des organisations internationales régionales, et ce renouveau régional coïnciderait, je pense, avec le début d'un troisième temps des civilisations, celui qui s'annonce, justement, avec cette crispation civilisationnelle dont j'ai parlé en introduction. Donc, bien construit, ce renouveau régional pourrait mener au développement d'un droit véritablement intercivilisationnel, un droit international des régions, par référence et en remplacement du droit international universel issu à l'origine du seul région, le droit public européen. Un deuxième argument en faveur de cette lecture civilisationnelle des régions tient à leur conception en droit international. On reconnaît en droit international la même ambiguïté, la même incapacité véritablement à définir la région que celle qu'on observe vis-à-vis de la civilisation, malgré le rôle central des régions, notamment dans le système d'élection dont je vous ai parlé tout à l'heure, et malgré leur multiplication sous toutes sortes de formes institutionnelles, elles demeurent très mal définies en droit international. On les définit d'ailleurs négativement, en général, comme n'étant ni locales, et donc ni étatiques, ni universelles, et donc ni fonctionnelles, comme les organisations internationales. Et pour le reste, elles désignent des institutions qui regroupent différents individus, voire des peuples, en raison d'une proximité, mais surtout d'une identité, dont M. Poulain nous parlait ce matin, voire d'une solidarité, ce qui est très intéressant, culturelle, économique, linguistique, juridique ou encore religieuse. Et cette définition évoque clairement celle des civilisations, puisqu'on y retrouve la dimension culturelle, la continuité spatiale et temporelle, et bien entendu la dimension collective ou sociale. Et à cela s'ajoute la plasticité, puisque comme les civilisations, les régions changent et surtout s'entrecroisent. Ce qui ressort en tout cas clairement, c'est l'incapacité du critère géographique et purement territorial, à capturer à lui seul l'enjeu de cette organisation interrégionale des relations internationales contemporaines, un enjeu qui est bel et bien, à mon avis, civilisationnel. En somme, qu'elles visent à traiter de questions internes à la région en développant leur propre droit international régional ou à influencer le droit international universel, les régions, une fois instituées, permettent à une civilisation de se cristalliser, de se consolider, et elles assurent une représentation civilisationnelle des individus et des peuples à l'interne et dans leurs interactions avec les autres régions, une concertation intercivilisationnelle. Donc ce qu'on voit, c'est que la région permet de répondre au malaise à la fois de l'institution région en droit international et au malaise de la civilisation. Donc j'avais prévu de répondre ici encore à deux critiques qui me seront peut-être faites dans la discussion. La critique d'abord de l'inégalité, peut-être entre régions. Pourquoi vouloir réparer une inégalité épistémique liée à la représentation par des États, par une représentation par des régions qui sont peut-être aussi inégales entre elles? Donc il y a une manière de répondre à cette critique, mais je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Et deuxièmement, la critique de la fragmentation civilisationnelle. Est-ce que créer des régions, ou en tout cas organiser les régions et les consolider sur le plan institutionnel, ne risquerait pas d'attiser la fracture entre civilisations qu'elle cherche, à laquelle elle cherche à répondre? Je ne dirai qu'une chose, et nous pourrons en parler dans la discussion si vous le souhaitez, c'est que cela fait maintenant un siècle et demi que nous faisons cela pour les institutions européennes, qui, tant sur le plan interne à l'Europe que sur la scène internationale, sont autorisées à nous représenter, à diffuser la conception européenne du droit international et à en faire une conception universelle. Il serait curieux que nous l'interdisions aux autres, après nous l'être autorisés pendant un siècle et demi. Je conclurai donc très brièvement en vous disant que je pense que ce n'est qu'au prix d'un travail de réuniversalisation du droit international, ce travail de conscience, de prise de conscience dont parlait Gandhi, tel que celui que j'ai proposé dans cette conférence, et notamment peut-être le développement d'un droit international des régions, qu'après le droit de civilisation du 19e et le droit civilisation du milieu du 20e, nous pourrons espérer connaître un troisième temps, que j'espère plus durable et surtout plus pacifique, parce que là est le véritable enjeu, de la civilisation en droit international. En bref, un vrai droit international des civilisations. Je vous remercie de votre attention.